13h en temps universel, il est 15h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie de notre rendez-vous quotidien. Nous sommes sur le continent américain avec à la une le scandale au Honduras après la diffusion de vidéos dans lesquelles on voit le beau-frère de la présidente échanger avec des trafiquants de drogue. Entretien à suivre dans une dizaine de minutes avec le président du Conseil économique et social des Nations Unies, le Canadien Bob Rae, qui rentre tout juste d'Haïti. Ça va un tout petit peu mieux sur le plan sécuritaire, dit l'ambassadeur canadien auprès de l'ONU. Et il rassure sur le déploiement prochain du reste de la mission multinationale menée par le Kenya. Vous entendrez aussi le nageur brésilien Gabriel dos Santos Araújo, 22 ans seulement et déjà légende des Jeux paralympiques. Et puis comme chaque jour, notre rendez-vous avec les Outre-mer. Benoît Ferrand, les forces de l'ordre sont encore présentes à Fort-de-France en Martinique ce matin.
Oui, pour maintenir la liberté d'accès aux installations portuaires, liberté menacée par la mise en place de barrages en signe de protestation contre la vie chère. Nous entendrons tout à l'heure deux avis relativement contrastés sur cette problématique de la vie chère.
A tout à l'heure.
RFI Midi.
Et avant de parler de tous ces sujets, le journal avec Clotilde Dumais et la conclusion d'un rapport accablant qui vient d'être publié au Royaume-Uni, les 72 morts de l'incendie de la tour Grenfell à Londres en 2017. Auraient toutes pu être évitées.
Oui, ce rapport estime que cet incendie est l'aboutissement de décennies de défaillances de la part du gouvernement et des organismes du secteur de la construction. Il pointe aussi la responsabilité des pompiers londoniens. En juin 2017, les flammes ont mis moins d'une demi-heure à se propager à l'ensemble de cette tour de 24 étages occupée par des familles modestes dans l'ouest de Londres. Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, a tout à l'heure promis de s'assurer qu'une telle tragédie ne puisse plus se reproduire.
Je voudrais commencer par présenter des excuses au nom de l'État britannique à chacun d'entre vous et à toutes les familles touchées par cette tragédie. Elle n'aurait jamais dû se produire. Le pays a failli à son devoir le plus fondamental, qui est de vous protéger, vous et vos proches. Monsieur le Président, aujourd'hui est un jour de vérité attendu depuis longtemps, mais il doit maintenant déboucher sur un jour de justice, et de justice pour les victimes et les familles de Grenfell, mais aussi un moment de réflexion sur l'état de la justice sociale dans notre pays et une chance pour ce gouvernement de tourner la page, car cette tragédie pose des questions fondamentales sur le type de pays que nous sommes.
La réaction du Premier ministre britannique Keir Starmer. Ses soutiens s'attendaient à cette décision. Paul Watson reste en prison au Groenland. Sa détention est prolongée de 28 jours. Ses avocats ont fait appel. Une nouvelle audience a été fixée au 2 octobre. Le militant écologiste a été arrêté en juillet alors qu'il s'apprêtait à intercepter un navire baleinier japonais. Tokyo réclame justement son extradition pour des faits qui remontent à un peu plus d'une dizaine d'années.
Aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris poursuivent leur campagne électorale. Nous sommes désormais à moins d'une semaine de leur premier débat.
Et tous les coups sont permis à 2 mois de la présidentielle. La candidate démocrate est ciblée ces dernières heures par une vaste opération de désinformation. Un mystérieux article de presse affirme que Kamala Harris aurait gravement blessé une adolescente de 13 ans dans un accident de voiture en 2011 avant de prendre la fuite. Cette rumeur s'appuie notamment sur un faux témoignage et des images détournées. Une infox particulièrement sophistiquée, Grégory Genevrier, qui a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux.
Tout commence sur un obscur média en ligne créé il y a seulement une dizaine de jours. KBSF San Francisco News, c'est son nom, publie un article intitulé « Kamala Harris a renversé une jeune fille de 13 ans avec sa voiture avant de quitter les lieux ». L'histoire repose sur une vidéo dans laquelle une jeune femme en fauteuil roulant raconte ce prétendu accident. Son récit est appuyé par des radiographies et la photo d'une voiture accidentée. Première incohérence, le cliché du véhicule endommagé montre en réalité un accident survenu en janvier 2018 à Guam, aux États-Unis. Les radios, quant à elles, proviennent d'une revue médicale. Deuxième problème, une anomalie visuelle au niveau d'un doigt et la disparition de l'une des roues du fauteuil durant la vidéo montre que ce témoignage a été créé par l'intelligence artificielle. On est donc face à une vaste opération de désinformation basée sur un deepfake publié sur un faux média en ligne. un mode opératoire utilisé il y a peu par la propagande russe pour s'attaquer à la femme du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Grégory Genevrier. Puis cette onde de choc au Honduras dans le parti présidentiel. Le média d'investigation Inside Crime a publié une vidéo qui fait scandale. On y voit le beau-frère et fondateur du parti politique auquel appartient la présidente Xiomara Castro négocier avec des narcotrafiquants notoires le financement d'un demi-million de dollars. L'enregistrement date de 2013, Marine Le Beg, précisément au moment de la campagne présidentielle de l'actuelle présidente.
Oui, la qualité de la vidéo est mauvaise. Prise par une caméra cachée dans la montre de l'un des narcotrafiquants. Mais les visages sont reconnaissables et les conversations intelligibles. On est en 2013, en pleine campagne électorale. Trois cadors du narcotrafic rencontrent Carlos Zelaya, le beau-frère de l'actuel président hondurienne, et lui propose 650 000 dollars. Dans cet extrait, on l'entend distinctement accepter l'enveloppe, ce qu'il n'admet aujourd'hui qu'à demi-mot devant la presse.
Aujourd'hui, j'ai dit ma vérité. Ma vérité, c'est que j'ai participé à une réunion où on m'a offert une somme d'argent, mais cet argent n'est jamais apparu. Les preuves ne sont pas suffisantes, mais j'admets avoir été dans cette réunion et j'admets qu'on m'a offert de l'argent.
La présidente Xiomara Castro est immédiatement montée au créneau pour défendre son beau-frère et a condamné tout type de négociation entre narcotrafiquants et personnalités politiques. Elle, qui s'était fait élire en 2021 sur la promesse de lutter contre le narcotrafic et la corruption.
Les explications de Marine Le Beg. Ils sont partis de l'aéroport de Buenos Aires et sont attendus à Paris en fin d'après-midi. Les rugbymen français Hugo Radou et Oscar Jégou ont été autorisés par la justice à quitter l'Argentine. Ils sont toujours inculpés de viol aggravé pour des faits présumés qui seraient survenus début juillet. Moins de 50% de la production d'électricité produite par le charbon. C'est un record enregistré en Australie durant la dernière semaine du mois d'août. Et sur cette période, les énergies renouvelables ont produit près de 49% de l'électricité, notamment avec les tempêtes qui ont permis d'augmenter l'éolien. L'Australie qui reste tout de même l'un des principaux exportateurs mondiaux de charbon et de gaz et qui dépend toujours fortement des combustibles fossiles pour générer son électricité.
Et toujours en Australie, les filets anti-requins sont de plus en plus critiqués.
Le pays a été dans les années 30 l'un des premiers à déployer ses filets le long de ses côtes pour empêcher les requins de s'approcher trop près et donc protéger les baigneurs et les surfeurs. Mais près de 100 ans plus tard, ces dispositifs sont de plus en plus dénoncés, jugés inefficaces. Ils font aussi des victimes collatérales, Grégory Pless, parmi les dauphins et les tortues.
C'est un chiffre qui à lui seul résume bien le problème. L'été dernier, plus de 90% des animaux capturés par les filets anti-requins en Nouvelle-Galles du Sud n'étaient pas des requins. Ils ont tué au passage une centaine de tortues et de dauphins. Paula Masselos, la maire de Waverley, où se trouve la célèbre plage de Bondi, plaide au nom de ses administrés depuis des années pour leur suppression.
Nous considérons tous que ce très lourd bilan pour nos mammifères marins doit s'arrêter. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons désormais accès à de bien meilleures technologies.
Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud emploie également depuis une dizaine d'années des palangres de surface, des drones pour signaler la présence des requins qui sont ensuite répertoriés sur une application destinée au grand public. Des méthodes tout aussi efficaces que les filets, selon le professeur en biologie marine Robert Harcourt, et qui présentent par ailleurs un avantage évident sur ces derniers.
Ces techniques ne sont pas mortelles et ne piègent pas d'autres animaux, comme les raies, les dauphins, les tortues ou les baleines, contrairement aux filets anti-requins.
Chaque année, on recense 10 à 15 attaques de requins par an en Australie. La dernière mortelle date-t-elle de 2022. Un homme de 35 ans avait alors été tué dans la baie de Sydney par un requin blanc. Grégory Pless, Sydney, RFI.
Et puis en tennis, les États-Unis attendaient cela depuis presque 20 ans. Un Américain sera forcément en finale de l'US Open. C'est une certitude puisqu'il va y avoir une demi-finale 100% américaine entre Francis Tiafoe et Taylor Fritz. Chez les femmes aussi, les États-Unis ont toujours une chance de remporter le Grand Chelem avec Emma Navarro qualifiée en demi-finale face à l'Espagnole Paula Badosa.
Merci Clotilde Dumais. Vous restez avec nous sur RFI, dernière partie d'RFI Midi. On va parler dans quelques minutes de la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti avec l'ambassadeur canadien à l'ONU qui vient de passer quelques jours dans le pays. Mais d'abord, direction le Honduras.
Le journal d'Haïti et les Amériques sur RFI.
Ce que vous entendez, c'est l'extrait d'une vidéo qui a provoqué un vrai coup de tonnerre au Honduras. On y voit le beau-frère de la présidente discuter avec des trafiquants de drogue. Et bien sûr, Christophe Paget, la presse du pays ne parle que de ça.
Oui, on se souvient que jeudi dernier, la présidente avait annulé le traité d'extradition de son pays avec les États-Unis, une arme pourtant utilisée pour lutter contre le trafic de drogue. Mais Xiomara Castro avait très mal pris une déclaration de l'ambassadrice américaine à Tegucigalpa. Déclaration qui, selon elle, pouvait sous-entendre que le ministre de la Défense et le chef des forces armées honduriens étaient impliqués dans le trafic de drogue. D'où l'annulation du traité d'extradition pour, affirmait-elle, protéger l'armée. Seulement voilà, et on en revient aux fameuses vidéos, l'ONG Inside Crime a publié hier une série de vidéos du beau-frère de la présidente, Carlos Zelaya. On le voit, raconte Confidential, alors qu'il rencontre en 2013 quelques-uns des plus grands trafiquants de drogue du pays pour négocier de présumés pots de vin afin de financer la campagne électorale du parti Liberté et Refondation, le parti de Xiomara Castro. Dans El Hondo Diario, le directeur du Centre d'études pour la démocratie parle de preuves accablantes générant une crise au gouvernement.
Et réaction immédiate de la présidente. Quelques heures à peine après la publication des vidéos, Xiomara Castro a tenu des propos très solennels. Écoutez.
Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo.
Je réaffirme que la paix et la sécurité intérieure de la République sont en danger, dit Xiomara Castro. Et la présidente hondurienne va même plus loin. Elle évoque un plan de destruction de son gouvernement dès du processus électoral en cours, c'est-à-dire la présidentielle qui est prévue l'an prochain. Elle assure ensuite qu'un nouveau coup d'État se prépare et elle appelle le peuple à le repousser. Les mots sont très forts, Christophe.
Alors évidemment, puisque c'est quand même ça qui intéressait les Honduriens, elle a aussi fait référence aux fameuses vidéos « Je condamne tout type de négociation entre narcotrafiquants et politiques ». Et les ministres qui l'entouraient lors de cette intervention télévisée ont lu une liste des politiques qui auraient des liens avec les narcotrafiquants. Mais dans cette liste, il n'y avait que des politiques de partis d'opposition. Aucune mention de membres du parti au pouvoir, remarque El Heraldo, alors que la population espérait des réponses. Elle minimise les signes à l'intérieur de sa famille, écrit El Hondo Diario. Alors que selon les analystes et les responsables de l'opposition, elle a l'obligation de donner des explications immédiatement et de revenir tout aussi vite sur sa décision de dénoncer le traité bilatéral d'extradition. Au contraire, analyse El Heraldo, la présidente a élevé le niveau de ses attaques contre l'ambassadrice américaine, parlant non plus d'ingérence mais de menace.
RFI Midi, Cap Haïtien. 100.5 FM.
Dans la presse en Haïti, Christophe, on reparle du scandale de corruption touchant la Banque Nationale de Crédit.
Et la BNC, un scandale qui touche trois conseillers présidentiels. Il y a un mois, rappelle le Nouvelliste, le président du conseil d'administration de la BNC avait écrit au Premier ministre Gary Conille pour dénoncer ces trois conseillers qui, selon lui, avaient exigé un paiement de 100 millions de gourdes pour le maintenir à son poste de président de la banque. Or, explique le Nouvelliste, parce que la majorité décisionnelle au Conseil présidentiel est de 5 membres sur 7, aucune décision ou résolution ne peut être adoptée sans le consentement de, justement, ces trois conseillers présidentiels. Et Louis Gérard Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilaire, écrit le quotidien, se sont opposés à une résolution du Conseil présidentiel de transition pour faire la lumière sur ce scandale.
À lire toujours dans le Nouvelliste, une question en titre de l'éditorial du jour. Des semaines critiques en perspective.
Le journaliste note que les forces de l'ordre sont en mode offensif. La police et l'armée, appuyées par la mission multinationale d'appui à la sécurité, sont mobilisées depuis une semaine au Bel Air et à Solino, deux arrondissements de Port-au-Prince. Les chefs de gang, après avoir espéré des négociations, ont compris qu'il y a jusqu'ici une volonté de les traquer, une volonté de reconquête des espaces conquis, estime le Nouvelliste. Qui rapporte les propos tenus hier par le chef de gang, Jimmy Cherizier, Barbecue. Le chef de la police et le Premier ministre n'ont qu'à se préparer, nous allons incendier tous ceux qui restent. Les prochaines semaines pourraient être critiques, écrit Robertson Alphonse. Les forces de l'ordre devront obtenir ou se donner les moyens afin de prendre le taureau par les cornes. Et les partenaires internationaux, à l'exception des USA, ne pourront pas se cacher encore longtemps derrière leurs petits doigts pour ne pas tenir leurs promesses de financement et de troupes. Le Nouvelliste estime que la participation des responsables haïtiens à l'Assemblée générale de l'ONU ce mois-ci sera critique.
Les Nations unies qui suivent en tout cas de près la situation en Haïti, qui veulent le montrer en tout cas. Le président du Conseil économique et social en revient et notre correspondante a pu le rencontrer à New York. Bob Ray rappelle que la situation humanitaire est toujours dramatique. En Haïti, plus de 5 millions de personnes n'ont pas de quoi manger. 500 000 survivent aujourd'hui sans abri. Christophe, vous nous parliez de la mission multinationale menée par le Kenya. Son déploiement traîne en longueur, mais les hommes qui sont déjà sur place, les opérations menées avec la police haïtienne ont permis des améliorations. L'ambassadeur canadien auprès des Nations Unies le confirme au micro de Karine Houghton.
Ambassadeur Ray, bonjour. La force kényane a annoncé des succès engrangés sur le terrain. Les Haïtiens semblent en douter. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, sur place? Est-ce que la situation vous semble meilleure?
Oui, meilleure. Ils ont réussi à élargir les zones de sécurité dans la ville. Ils ont besoin encore de l'équipement. Ils ont besoin des blindés. Ils ont besoin de la technologie qui peut matcher la puissance, le pouvoir des gangs. Du point de vue sécuritaire, on a un plan. C'est clair qu'il y a une vision qui est partagée par la force du MSS et aussi par la police et par les autorités civiles et par l'armée, parce que l'armée maintenant est retournée un peu dans la situation.
Alors, quelques 400 policiers kényans sont pour l'instant sur le terrain. La force multinationale est loin d'être au complet. Pourquoi cette lenteur dans le déploiement? N'est-ce pas donner du temps aux gangs pour s'organiser?
Oui, c'est clair. 400, ce n'est pas suffisant. Nous avons encore 700 membres du PNH qui sont en train d'être formés. Ils seront prêts en quelques semaines. Nous aurons encore des additions venant de Kenya. Kenya a dit qu'ils sont prêts pour faire 1 000, alors c'est beaucoup. Et il y a les pays de la Caraïbe qui sont en train de voir comment ils peuvent aider à la fois sur la mer. La question des armes, la question des drogues, ce sont des activités que nous savons sont très actives. Les Bahamas, les autres pays dans la région sont prêts à ajouter leurs forces. Et je crois que ça va nous aider avec les bateaux américains, canadiens, les autres, ça va nous aider. Alors, est-ce que ça prend trop longtemps? Absolument. Est-ce que ça a été difficile? Oui. Et est-ce qu'on est dans une position pire qu'on aurait été si c'était avancé plus tôt? Oui, mais quand même. Il faut dire que ça commence à améliorer un peu.
Un scandale de corruption a éclaté le mois dernier au sein du Conseil présidentiel de transition. Est-ce que cela n'affaiblit pas cet organe transitionnel?
Ça complique les choses, mais j'ai eu une discussion très franche avec le Premier ministre là-dessus. Je pense qu'ils sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour assurer, mais il faut avoir une enquête très rapide. C'est essentiel qu'on arrive à une conclusion et... Les partis qui ont nommé des gens doivent être prêts à nommer des autres s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui a été découvert et qui est vraiment le cas. Mais les gens nient l'accusation. Alors, il faut donner l'opportunité pour les gens de s'expliquer. C'est ça qui arrive maintenant. Mais il n'y a aucun effort de nier le problème ou d'éviter la réalité qu'il faut trouver des solutions.
La CARICOM, elle, dénonce la lenteur de la transition. Plusieurs engagements pris dans l'accord de transition ne sont pas respectés. Qu'est-ce que vous en pensez?
La leçon d'Haïti, que les choses prennent plus long qu'on avait pensé et qu'on avait espéré. C'est ça la situation. Je ne pense pas qu'il y a un refus de la part de la classe politique d'accepter le changement, mais quand même, ça prend du temps. Est-ce que ça prend trop longtemps? Oui, absolument. Mais il faut continuer d'essayer d'avancer les choses.
Vous avez encore confiance dans un processus de transition censé s'achever en février 2026?
Oui, et franchement, on n'a pas de choix. Dans le printemps, on a fait du progrès. On est arrivé à quelques décisions. Décisions qui, à mon avis, étaient positives. Décisions qui ont mené à la nomination du M. Conil comme le premier ministre du pays. Et maintenant, on verra. Le conseil pour l'élection sera nommé très, très bientôt. J'ai discuté avec le comité de transition et je pense qu'ils sont d'accord que ça va arriver. Pour moi, la seule question qui reste, c'est qu'une élection est possible seulement si la situation sécuritaire est améliorée. C'est ça l'essentiel. La question humanitaire qui avait été tellement affectée par l'insécurité et la violence. Et si on peut avancer sur ces deux aspects de la vie, une élection viendra, j'en suis certain.
En juillet, l'ambassadrice américaine Greenfield a déclaré que la communauté internationale devait exiger que les gangs rendent des comptes pour les atrocités passées. Où en est l'ONU sur cette question? Trouvez-vous que les sanctions contre les gangs sont efficaces?
Les sanctions ont aidé, mais franchement, ils n'ont pas été appliquées universellement. On a des sanctions des pays comme le Canada. Nous avons le plus grand nombre de personnes sanctionnées. Les États-Unis, ils ont 2. L'ONU, 1. Et puis l'Europe, pas beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance des sanctions. Mais pour être efficace, les sanctions doivent être appliquées universellement. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord. Les Chinois, les Russes, non, on n'attend pas grand-chose, mais quand même, le Conseil de sécurité doit toujours faire attention à ça.
Sur un autre sujet, que peut-on attendre de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est attendu ces jours-ci?
Ça va nous aider beaucoup, je pense, à établir des stratégies plus efficaces. Et c'est essentiel. Parce que M. Blinken, il va aussi venir à New York pour les réunions de haut niveau.
Michel Martelly, qui a été président d'Haïti entre 2011 et 2016, a été sanctionné par les États-Unis au mois d'août. Le Canada l'avait déjà fait et a applaudi cette décision. Pourquoi le Canada et les États-Unis se contentent de sanctions et n'engagent pas de poursuites judiciaires?
Nous faisons un effort dans nos pays pour voir s'il y a des activités des gens qui peuvent être sous la juridiction canadienne ou américaine. Mais l'essentiel, c'est que les autorités haïtiennes prennent responsabilité pour le problème de corruption. Ils ont des lois, ils ont des règles, mais les règles ne sont pas respectées, ni les lois respectées. La sécurité doit être menée par les Haïtiens. La justice doit être menée par les Haïtiens. Le développement, les plans économiques doivent être menés par les Haïtiens. L'État haïtien existe. Ils ont une certaine capacité. S'ils ont besoin d'encore d'assistance, oui, on est prêt à donner. Mais la volonté doit sortir de la situation haïtienne et les Haïtiens doivent prendre responsabilité pour l'administration de justice, pour l'activité des polices, la question de comment former une armée, tout ça. Ils ont la capacité de le faire eux-mêmes, ils doivent le faire. Il faut se souvenir qu'il y a 6 mois, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui pourrait arriver pour donner une possibilité aux Haïtiens. Et la chose importante aujourd'hui, c'est qu'il y a des possibilités. Alors, il faut prendre avantage de ce moment.
Ambassadeur Ray, merci beaucoup.
Merci.
L'ambassadeur canadien auprès des Nations Unies, président du Conseil économique et social de l'ONU, au micro de notre correspondante à New York, Karine Auton. Autre visite très attendue en Haïti, c'est confirmé. Le secrétaire d'État américain arrivera dans le pays dans les prochaines heures. Et on vous retrouve maintenant, Christophe Paget, pour feuilleter les journaux du continent au Nicaragua, où le Parlement a adopté hier une loi permettant de juger les opposants au régime du président Ortega qui vivent à l'étranger.
Il s'agit, explique 100% Noticias, de pouvoir juger les personnes physiques ou morales, nicaraguayennes ou étrangères, qui ont commis en dehors du territoire national des délits contre l'administration, l'État ou les institutions, entre autres. La réforme proposée par le président Ortega lui-même a été approuvée par 88 voix sur 91 députés. Dans Infobae, un dirigeant de l'opposition, Félix Maradiaga, estime que cette réforme donne le feu vert pour juger et confisquer les biens de ceux qui sont en exil, augmentant sa capacité pour faire taire l'opposition partout dans le monde. Bref, une déclaration de guerre contre tous ceux qui s'opposent au régime où qu'ils se trouvent. Confidential parle de répression transnationale.
Christophe Paget, votre revue de presse et toutes nos informations disponibles sur Internet à la page du journal d'Haïti et des Amériques.
RFI Midi.
Une rencontre à présent. La rédaction en langue brésilienne de RFI a pu s'entretenir avec l'une des stars des Jeux paralympiques, Gabriel dos Santos Araújo, déjà triple médaillé d'or en natation à Paris. Et ça n'est peut-être pas fini, car il visera aussi une médaille vendredi aux 50 mètres nage libre. Le Brésilien à la nage de dauphin a bien sûr la tête à l'entraînement, mais il savoure à la fois sa réussite et le lien qui se crée avec le public.
Je me sens très heureux, c'est très touchant. Je n'aurais jamais imaginé vivre ça. C'est une ambiance unique, tout comme ce pays est unique. Toute cette énergie, tout ce qui se passe ici, ça me rend heureux. Mais je n'ai pas beaucoup le temps d'y penser parce que je dois me concentrer sur mes épreuves. Je dois travailler beaucoup pour maintenir et améliorer mes résultats.
Et justement, quelle est votre routine de travail? Combien d'heures vous vous entraînez par jour?
Je m'entraîne du lundi au samedi. Je quitte la maison à 5h du matin et je rentre à 21h30. Et l'entraînement est très addictif, mais c'est aussi un plaisir parce qu'il me procure beaucoup de joie et de motivation, et surtout la motivation d'être ici.
Alors les spectateurs sont impressionnés par votre technique. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu?
Mon seul objectif, c'est d'utiliser toutes les armes dont je dispose pour le meilleur résultat possible. Donc les jambes, même si elles sont courtes, la tête et la poitrine, voilà ce que j'ai et je dois en faire le meilleur. J'utilise beaucoup de force, je suis bien préparé. Et un athlète intelligent doit savoir comment relier chaque muscle et les activer tous ensemble pour faire sortir le meilleur de soi.
Alors ça c'est Gabriel l'athlète, mais Gabriel dans la vie quotidienne, il est comment?
Il est très serein, très heureux, il a toujours le sourire et il suscite toujours de la joie. Et je vois que ça fonctionne aussi en France. Je réussis à transmettre ma joie aux autres. Toute cette énergie positive autour de moi, c'est vraiment un honneur.
Le nageur brésilien Gabriel dos Santos Araújo, interrogé par Maria Paula Carvalho. Et c'est Achim Lipold qui s'est chargé de la traduction. L'actualité des Outre-mer, et on vous retrouve, Benoît Ferrand. À Fort-de-France, les forces de l'ordre sont encore présentes ce matin pour maintenir la liberté d'accès aux installations portuaires.
Liberté menacée par la mise en place de barrages lundi en signe de protestation contre la vie chère, mouvement relayé d'ailleurs à l'intérieur du port où la manutention des containers est pour l'instant à l'arrêt. Invité hier soir du journal télévisé de la Première Martinique, le préfet Jean-Christophe Bouvier s'est dit prêt à des discussions sur le coût de la vie dans le département, tout en précisant aussitôt que, selon lui, il sera bien difficile d'arriver à une véritable baisse des prix.
Aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites montrent que la problématique structurelle de la vie chère ne vient pas tant du fait que les marges sont supérieures au niveau des distributeurs martiniquais. Les études qui ont été faites par tous les services de contrôle montrent que ces marges sont équivalentes peu ou prou à celles qui existent partout ailleurs dans l'Hexagone.
Vous parlez de l'Hexagone. Dans l'Hexagone, le gouvernement est rentré en négociation, en confrontation même avec les distributeurs. Le gouvernement a obtenu un accord avec ses distributeurs. Mm-hmm. Est-ce que ces mêmes négociations ont été effectuées en Martinique avec nos distributeurs de Martinique ?
Elles peuvent l'être. Quand le gouvernement a travaillé avec les distributeurs, c'était avec les distributeurs nationaux, y compris la Martinique. La Martinique a des spécificités insulaires. Savez-vous que les produits importés en Martinique, on le dit, sont plus chers que dans l'Hexagone pour les produits alimentaires de 40%? Mais quand vous allez dans les territoires autour de la Martinique qui importent aussi et qui sont dépendants de l'extérieur, ces prix sont parfois supérieurs à ceux de la Martinique, alors même qu'ils sont importés par des territoires indépendants.
Il faudra bien pourtant arriver à s'attaquer sérieusement à cette problématique récurrente en Outre-mer et depuis longtemps. C'est en tout cas l'opinion de la députée de la Martinique, Béatrice Bellé, qui estime qu'on ne peut plus se contenter en 2024 d'expliquer aux gens qu'ils n'y comprennent rien et que l'on ne peut rien changer.
Je suis sidérée parce que c'est de la faute de personne. Et donc, il va falloir quand même qu'on trouve des solutions, mais c'est jamais de la faute de personne. C'est l'éloignement, mais ça devient beaucoup plus cher. Personne ne fait de marge et personne ne fait d'intérêt, mais on a en face quand même des commerçants qui n'ont pas vocation à être des altruistes ni des philanthropes. Il y a aussi le métier de l'État. L'État aussi doit protéger ses populations. Il y a aussi le métier des collectivités locales qui doivent mettre en place des services publics qui sont aussi de nature à donner en capacité de vivre aux citoyens. Donc je pense qu'il faut décortiquer, mais le fait que tout le monde se passe la patate chaude commence à agacer, à sidérer, à aussi générer ce que l'on a entendu, c'est-à-dire aujourd'hui un ras-le-bol et cette impression que rien ne va changer parce qu'aucun acteur ne veut prendre des responsabilités.
Affaire à suivre. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Et c'est avec le groupe mexicain Cumbia Boruca que se termine RFI Midi aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous demain, 11h, temps universel. Très bonne journée à tous sur RFI.
Tendré mi camino, yo sé que esta vida es para nada. Me llevaré cuando me vaya, no me da miedo el futuro, porque yo sé que mi suerte está echada.
Para el paso suertudo, Dios Zapal.
No sé lo que me depara el destino, pero por el momento estoy tranquilo. No tengo miedo, no me preocupo, pues sé que suerte tendré mi camino.
RFI, la sélection du mois.
Aya Nakamura.
J'ai complètement pour mon père.
RFI Musique.